va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des Capulets.
Quand je vois des bandes qui trafiquent de la drogue dans les hauts immeubles, il faut nettoyer.
Mais au fond, je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. On a fait reculer le chômage. Ça n'a pas eu un effet direct sur l'insécurité.
En ce qui concerne le problème de l'emprisonnement des mineurs, l'emprisonnement lui-même s'avère très souvent un mal plutôt qu'un remède. Il est traité comme délinquant. Et par là même, il se sent délinquant. Il devient délinquant.
Si tu joues au policier, ils joueront au bandit. Si tu joues au bon Dieu, ils joueront au diable. Si tu joues au geôlier, ils joueront au prisonnier. Si tu es toi-même, ils seront bien embêtés.
Merci à messieurs Sarkozy, Jospin, Badinter et Deligny d'ouvrir cette émission avec nous. Wakadi, on a quelque chose à dire, c'est parti. La sécurité et l'insécurité, la prévention ou la répression? Eh oui, pendant la campagne présidentielle de 2002, tous les discours se sont focalisés sur ce thème, on connaît les résultats. Et maintenant, grâce à monsieur Sarkozy, mais pas que lui, on va le voir, on est tous devenus des spécialistes de la sécurité. On parle tous le sécuritaire. Vidéosurveillance, flashball, fichier ADN, multirécidiviste, peine planchée, vous connaissez ? Assemblée nationale ou café du commerce, c'est pas toujours facile de faire la différence. Parce que quand même, à en écouter certains, ou certaines, ça n'a pas l'air difficile à régler ce problème. Nous, c'est parce qu'on est persuadé que c'est plus compliqué qu'on vous propose cette émission. Un pas de côté sur un sujet complexe et chargé en émotions, et des détours du côté des acteurs de terrain, des professionnels de l'action sociale, de la sociologie, des citoyens. Un détour du côté de la vraie vie, quoi. On est quatre pour vous accueillir aujourd'hui. Marco, salut Marco.
Bonjour tout le monde.
Manu.
Bonjour.
Salut Manu.
Salut.
Jean-Jacques.
Salut, salut.
Et moi, Guillaume. Toutes ces questions, on va tenter de les aborder avec des personnes qui ont quelque chose à dire tous les lundis à 5h30 sur Radio Clapas.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Alors la tradition, on la connaît tous maintenant, c'est de commencer par râler. Mais je vois dans le regard de Guillaume qu'aujourd'hui, on ne va pas râler.
Mais comment tu vois dans mon regard ?
Je connais ton regard, c'est tout.
C'est vrai ?
Eh bien, il a râlé hier. Non, je voulais dire quand même, il a râlé hier.
Il râle qu'une fois par jour, je crois.
Tous les jours, ouais. Nous avons une réunion hier. Donc,
si ça vous dérange pas, je veux bien dire ce que j'ai à dire. Mais...
Allez, essaye.
Tu vas râler.
En fait, moi, je veux vous parler de mon week-end.
Ouais, vas-y. Déjà, ça
ne m'intéresse pas mon week-end.
Pas tant que ça.
En fait, j'ai fait un pique-nique. Ça t'intéresse pas, Marco, toi,
mon pique-nique ? Est-ce que t'as passé un bon week-end ?
Ouais, j'ai passé un bon week-end sur un sujet pas forcément évident, mais j'ai quand même passé un beau week-end. J'ai fait un pique-nique à Celle-Neuve avec un comité de soutien, avec le comité de soutien de la famille Alaki. C'est une famille du quartier de Celle-Neuve, dont les enfants sont scolarisés à Celle-Neuve, et qui se retrouvent menacés d'expulsion. Avec, donc, du coup, ce comité de soutien qui s'est créé, des parents d'élèves, les enseignants qui sont mobilisés, les directeurs d'école, des deux écoles, puisqu'il y a l'école primaire et l'école élémentaire qui sont concernées. Et tout ce monde-là, les parents d'élèves FCPE, tout ce monde-là, donc, s'est retrouvé pour un pique-nique, comme quoi on peut aussi militer tout en partageant des bons moments ensemble.
Et vous étiez nombreux, il y avait du monde alors ?
Ouais, il y avait un peu plus de 100-150 personnes. Donc on a bien discuté, il y avait des groupes, il y a eu des prises de parole, c'était.
Et pour Marco, il y avait des choses bonnes à manger pour Marco, ça l'intéresse.
Il y avait des choses.
Le menu.
Le menu, en fait, c'était un pique-nique. Tout le monde avait amené un petit quelque chose. C'était pas. On a quelque
mais,
chose. À...
Mais le menu.
tu vois pas. C'est vrai, les pique-niques, c'est pas trop ton truc. Toi.
Non, moi je vais au restaurant.
Ouais. Grande classe.
On prévoira peut-être un restaurant militant.
Oui, s'il te plaît.
Enfin voilà, donc on vous en reparlera certainement de ce comité de soutien. Parce qu'il n'y a pas que les écoles de Celle-Neuve qui sont concernées. Il y en a pas mal sur Montpellier, puisqu'il y en a un nouveau cas à la Paillade, il y a un cas sur le quartier Paul Valéry. Et le comité de soutien de Celle-Neuve a prévu, je crois, une diffusion de films au mois de janvier. On a nous aussi prévu, il me semble, d'interviewer un des acteurs de ce comité de soutien. Donc on vous reparlera de tout ça. Un peu plus tard.
Il y a des moyens d'avoir des informations sur le net ou des choses comme ça ?
Alors oui, le problème c'est que j'ai pas le site internet.
Très bien. Non, mais on n'est pas comme si c'était à la radio, tu pouvais en profiter.
C'est,
quoi.
C'est très efficace. Donc je crois que ça s'appelle comité de soutien à l'acquis. Il faudra taper ça, je pense qu'on devrait tomber dessus. Mais c'est vrai que je suis incapable.
Il y a un arrobase au moins dans ton adresse.
Dans l'adresse arrobase, non, pas sur le site internet, Marco.
Ah, ok, c'est vrai.
Bon, ben je crois qu'on va pouvoir commencer, non ?
Ben aujourd'hui, on reçoit personne.
Ah bon?
Puisque, ben oui, vous, Jean-Jacques et Guillaume nous ont apporté une interview de Laurent Bonelli, qui est un professeur de sociologie à Nanterre et spécialiste aussi de la politique de la ville. Et ce qu'on on a envie de vous faire partager, en fait, c'est ce travail de sociologue qui va récolter des infos sur le terrain et pouvoir les analyser. Ça nous permet un peu à nous aussi de défendre, combattre certaines idées reçues, puisque les thèmes abordés au cours de cette interview concernent l'historique des quartiers, les événements de 2005 à Clichy qui ont démarré, on appelait ça aussi des émeutes, et qui ont entraîné aussi surtout la mort de deux jeunes électrocutés. Donc ce qu'on peut commencer, c'est peut-être à quoi sert le travail de Laurent Bonelli, ce qui concerne quelles sont ses recherches, qu'est-ce qu'il fait.
C'est la base de mon travail, c'est à la fois étudier un certain nombre de transformations qui ont affecté les milieux populaires ces 30 dernières années. Transformations, je dirais, dans le rapport au travail, transformations dans le rapport à l'école, transformations dans le rapport au quartier. Donc essayer d'étudier à la fois, je dirais, ces transformations politiques, de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, et puis les effets que cela produit justement sur les jeunesses populaires.
Alors les transformations des classes populaires, on peut balayer ça en quelques mots.
Les transformations, bon, quand on parle de banlieue, on parle essentiellement donc de ces grands ensembles qui ont été construits entre les années 50 et 70, hein, grosso modo. On pensait, pour avoir un chiffre, qu'on construit entre 50 et 70 6 millions de logements en France. 6 millions, c'est quelque chose de colossal. Donc bon, ces quartiers qui étaient à l'époque destinés justement à favoriser ou tout en cas à améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière, se sont très profondément transformés, au moins sous deux séries de facteurs. La première, c'est dû à des politiques menées à partir des années 70, notamment par le gouvernement Barre, qui favorise l'aide à la construction plutôt que l'aide au logement. Ça veut dire qu'ils vont favoriser le fait que les gens puissent avoir des crédits peu chers pour pouvoir construire des maisons. Donc on a les parties les plus favorisées de ces quartiers qui vont sortir de ces quartiers pour construire justement des pavillons qui fleurissent en France à cette époque. C'est l'époque des maisons Bouygues, des maisons Phoenix, bon, etc. Donc on a un départ, je dirais, des plus aisés. Le deuxième série de facteurs, c'est les transformations du système industriel français à la suite des deux chocs pétroliers de 73 et 79, qui se traduisent notamment par l'automatisation des chaînes de production, par l'informatisation des chaînes et par des délocalisations. Et tout cela, ça va affecter les classes populaires de manière très brutale, puisque c'est une période où commence un chômage de masse chez les ouvriers, particulièrement chez les ouvriers non qualifiés, et à côté de ce chômage de masse, une précarisation généralisée des statuts. Une précarisation généralisée des statuts, c'est-à-dire que alors que le plein emploi, je dirais, le plein emploi n'est plus garanti, et on voit commencer à se développer les formes d'intérim, de contrats à durée déterminée, dont le CPE n'est finalement que l'un des derniers, le dernier rejetant en date. Bon, voilà, donc ça, je dirais, c'est des transformations qui sont des transformations massives et qui vont affecter très durement, finalement, les jeunesses populaires. C'est à la fois, on a des quartiers donc dont sont partis les plus favorisés, où les autres se sont paupérisés, et donc on a des quartiers où se concentrent de plus en plus, finalement, les misères et les précarités. Ça, c'est une réalité qui est celle, je dirais, de ce qu'on appelle les banlieues, de manière très générique, je dirais, alors que bon, il y a des banlieues très très différentes. Mais en tout cas, c'est ce qui a affecté ces grands ensembles.
Et la question de la perte d'influence, par exemple, du Parti communiste ou des associations, est-ce que ça a affecté aussi les classes populaires, en tout cas ces quartiers-là?
Ça les a affectés d'une manière assez directe, puisque en fait, l'une des conséquences de ces transformations industrielles, ça a été l'affaiblissement des structures de représentation des classes populaires. C'est-à-dire que autrefois, justement, la politisation au milieu populaire passait très largement par l'usine, par le travail dans les quartiers. Bon, à la fois le départ des plus aisés, qui très souvent étaient des ouvriers qualifiés, c'est-à-dire des gens qui pouvaient faire ce travail-là, justement, de mobilisation. Et la précarisation des autres, ça a eu des effets politiques très très durs. Ce qui ne veut pas dire, je dirais, qu'il n'y a pas de politique. Je dirais, les gens font de la politique, il y a des organisations de quartier qui se mobilisent, etc. Mais tout au moins, je dirais, les organisations centrales de représentation de ces milieux populaires, je dirais, ont disparu du paysage. Et ce n'est pas un hasard aujourd'hui de voir que le discours sur les classes dangereuses, je dirais, renaît. C'est un discours qui avait disparu, qui existait au XIXe siècle, les classes laborieuses, classes dangereuses. Ce discours décline, quasi disparaît, au moment où ces classes laborieuses s'organisent et se dotent d'organisations de représentation. Je crois qu'il n'est pas sain, il n'est pas totalement un hasard que, finalement, revienne aujourd'hui un discours sur les classes dangereuses, alors même que les structures de représentation de ces quartiers ont décliné.
La sociologie de ces quartiers a bougé en 30 ans, et puis le regard que porte le reste de la société et la politique en général sur ces quartiers a lui aussi beaucoup bougé. Le traitement politique de ces quartiers a changé. Alors quelles sont les principales évolutions au niveau du traitement politique ?
Bah justement, quand on commence à prendre, les pouvoirs publics commencent à prendre en considération ces questions au début des années 80, ils le font à travers, on est dans un contexte d'alternance, c'est-à-dire la gauche arrive au pouvoir après une très longue absence, genre du pouvoir, c'est François Mitterrand, changer la vie, et les élites qui arrivent au pouvoir à cette époque-là considèrent que finalement les problèmes de ces quartiers sont liés à la fois à des problèmes de bâti, à des problèmes de parce que on a construit ces tours en béton dans les années 60 et elles se sont dégradées. Considèrent que on les a construits dans les périphéries des villes, que il y a donc très peu de transports pour les relier, il y a une vie sociale assez morne, une vie culturelle de désert culturel. Donc il faut développer socialement ces quartiers. On considère que la question de l'insertion des jeunes c'est finalement l'idée qu'il y a des causes sociales. C'est-à-dire que ces désordres sont le résultat d'un certain nombre de causes sociales, multiples, et que si on veut les faire décliner, il faut traiter l'ensemble de ces problèmes simultanément. C'est ce qui va donner, dans les années 80, ce qui deviendront les politiques de la ville, finalement. Alors, là, on a une rupture assez brutale, au tournant des années 90, avec notamment une série de flambées de violence entre l'automne 90 et le printemps 91. Il y a 7 villes qui brûlent, notamment Melun, Sartrouville, un certain nombre d'autres. Chaque fois pour des raisons équivalentes. On a des jeunes qui sont tués soit directement dans des contacts avec la police, soit indirectement. À Sartrouville, c'est des vigiles qui tuent un jeune. Je dirais comme d'habitude, le quartier flambe. Et alors là, c'est intéressant, c'est-à-dire que dans les médias et dans le monde politique, des gens vont se saisir de cette occasion pour dire, regardez, puisque tous ces quartiers avaient bénéficié de l'ensemble des politiques dont on a parlé, et que ça a flambé, c'est donc que c'est un échec. C'est-à-dire on oublie complètement les causes, les éléments déclencheurs, et on dit, c'est un échec. Et là, il y a une transformation, notamment à gauche, de la prise en question de prise en considération de ces questions, et arrive, s'il n'y a plus de cause sociale, c'est une question de responsabilité individuelle. Et là, on voit arriver sur ce champ d'analyse l'idée qui vient directement des États-Unis que c'est finalement l'homme rationnel, c'est-à-dire l'acteur rationnel, qui calcule sa conduite en fonction d'un calcul coût-avantage. Et personne, je crois, ne le dit aussi bien que Julien Drey, qui était le député PS de l'Essonne, responsable de la sécurité au Parti Socialiste, qui dit que le délinquant est un homo economicus rationnel qui choisit la délinquance en fonction d'un calcul coût-avantage. Ça a eu des effets, parce que si on croit, je dirais, à cela, la conséquence la plus directe, c'est tout simplement de dire qu'il faut, pour faire diminuer les désordres et pour les faire disparaître, il suffit de faire augmenter le coût et de faire diminuer les bénéfices. Et comment augmente autant le coût et diminuant les bénéfices? Tout simplement en renforçant les contrôles policiers, en endurcissant, je dirais, les peines judiciaires encourues.
Even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire?
One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
Alors, homo economicus ou homo sapiens, là je crois qu'on est bien parti dans le concept de la responsabilité individuelle. Là je peux pas résister à la tentation de livrer un petit peu la contradiction à Laurent Benelli. J'ai retrouvé une phrase d'un ancien homme politique qui disait « Il ne faut pas confondre sociologie et droit, chacun reste responsable de ses actes. Tant qu'on admettra des excuses sociologiques et qu'on ne mettra pas en cause la responsabilité individuelle, on ne résoudra pas ces questions. » Alors, c'est qui, Marco?
Lionel, peut-être.
Jean-Jacques ?
Oui, j'ai aucun mérite. Je crois que j'ai lu tes notes. Ça ne serait pas un ancien Premier ministre ?
Je crois que c'est un habitant de l'île de Ré. C'est Lionel Jospin, donc. Mais bon, vu l'ambiance politique, ça pourrait être n'importe qui, hein, je pense, aujourd'hui, qui pourrait dire ça. Enfin, n'importe qui, n'importe quel homme politique. Si Laurent Bonelli nous écoute de Nanterre, qu'il sache que nous avons volontairement censuré une partie de cet entretien, une partie qui traitait de l'évolution des pratiques policières, et on vous la réserve pour une prochaine émission qu'on pourrait qualifier de spéciale, enfin que Jean-Jacques pourrait qualifier de spéciale.
Je qualifie toujours les choses de spéciales.
Voilà, donc on a fait la promotion encore d'une future émission. Alors que s'est-il passé en novembre 2005 ? On voyait par la lucarne médiatique, non pas une émeute dans une banlieue, quelque part en France, mais bien une révolte des banlieues et son concours de voitures incendiées. Qu'y avait-il de nouveau pour justifier ce phénomène ? Écoutons ce que Laurent Bonelli peut nous en dire.
Hélas, ce genre de flambée de violence, des jeunes qui sont tués, le quartier qui s'embrase, je dirais, c'est hélas fréquent. D'après la police elle-même, il y a eu 341 événements de ce type entre 91 et 2000. C'est tout simple, ça fait un tous les 10 jours. C'est quand même fréquent. Là, et de ce point de vue-là, il y a une différence dans le sens où ça s'étend. Mais ça s'étend, est-ce que ça s'étend réellement ? Non, parce que c'est pas tout à fait la même chose qu'on constate. Qu'est-ce qu'on a vu à Clichy et qu'est-ce qu'on a vu dans les cas similaires ? On a vu 200, 300, 400 jeunes qui s'affrontent avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on a vu ailleurs ? Est-ce qu'on a vu ça ? Non, on n'a pas vu d'affrontement de ce type. D'ailleurs, la police elle-même le reconnaît. On a plutôt vu des groupes de jeunes qui brûlent les voitures, de 10-15 jeunes qui brûlent les voitures et qui disparaissent, refusant l'affrontement. Tout simplement, ça renvoie à l'idée simple finalement de l'action collective qui fait que hormis un contexte émotionnel très chargé de la perte d'un être cher, d'un copain, d'une personne connue, c'est très difficile de rassembler 300-400 personnes pour affronter les forces de l'ordre. Par contre, 10-15 jeunes qui brûlent les voitures, c'est devenu effectivement, c'est beaucoup plus facile, c'est très spectaculaire, c'est facile à provoquer, donc on n'est pas exactement sur le même registre. Alors pourquoi est-ce que justement ça s'est fait à ce moment-là ? Alors, je dirais il y a des éléments internes, des éléments externes d'explication. Les éléments externes, d'abord, je crois que le discours de Nicolas Sarkozy, mais c'est finalement somme toute assez banal, n'a pas pacifié la situation. Je dirais le mélange de mépris social dont il a fait montre pour les milieux populaires, nettoyé au Karcher, bon, etc. Ou le mélange de mépris social et de virilité guerrière, on va vous montrer, je dirais, n'a pas calmé la situation. Surtout, mais c'est pas tellement le discours de Nicolas Sarkozy, c'est que Nicolas Sarkozy a donné, comme de cette manière-là, un visage unique à toutes ces micro-confrontations quotidiennes dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, finalement, il a synchronisé, je dirais, toutes ces micro-confrontations quotidiennes, il leur a donné, finalement, une cible commune, leur permettant, de ce point de vue-là, de s'exprimer, je dirais, localement, en même temps, sur une scène nationale. Bon. Ça, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'il a servi, finalement, de point de convergence à toutes ces confrontations, ces conflits, ces tensions locales. De la même manière, je crois que les médias ont joué un rôle de très intéressant pour étendre le mouvement. Ça, c'est des préceptes de base de l'action collective. Parce que tout simplement, on se lance d'autant plus facilement dans l'action collective qu'on voit qu'on n'est pas le premier à s'y lancer. Je dirais, je ne sais pas si vous vous souvenez, les cartes qu'on voyait à la télévision, avec les petites flammes, à Strasbourg, on en a brûlé 342, à Toulouse, 627. Bon, ça crée une émulation, je dirais, entre quartiers, qui avait déjà été d'ailleurs dénoncée dans les années 99, je me souviens, dans la fin des années 90, où le préfet de Strasbourg s'était énervé après les journalistes, qui, comme ça, entretenaient une sorte de concurrence, on dirait, entre quartiers, sur le nombre de voitures brûlées. À l'époque, je me souviens, des jeunes qui passaient à la télévision, qui avaient France 3, étaient considérés comme des losers, des tocards, à côté de ceux qui avaient eu France 2, qui était une chaîne nationale, ou TF1. Bon, et donc il y avait cette espèce d'émulation qui avait terminé d'ailleurs par le fait que le préfet, en accord avec le directeur des dernières nouvelles d'Alsace, avait arrêté de donner ces palmarès-là. Bon, finalement, voilà, 6 ans plus tard, je dirais amnésie totale sur ces réflexions qu'il y avait eu à l'époque. Et ce sont des raisons externes. Après, il y a des raisons internes. Des raisons internes qui font que sur certains groupes et sur certains quartiers, brûler des voitures, c'est quelque chose qui est en train de devenir relativement commun. On sait qu'on a brûlé 21 000 voitures en 2003, et dans les 7 premiers mois de 2005, Jérôme en avait quand même brûlé 28 000. Il y en a eu 10 000 qui ont été volés pendant la crise, mais on en a brûlé 28 000 pendant, entre janvier et juillet, c'est-à-dire 150 par nuit pratiquement. C'est-à-dire, c'est pas quand même quelque chose, vous voyez, de très nouveau. Et ça tend justement à se convertir pour les plus jeunes, notamment pour certains groupes et notamment parmi les plus jeunes, en un mode ordinaire de protestation sur ces questions, dans un contexte qui est celui dont je parlais tout à l'heure, de relégation politique ou enfin de relégation et de désorganisation politique de ces quartiers. C'est un rappeur célèbre qui disait « Derrière chaque caisse qui crame, il y a une petite voix qu'on entend à peine ». Mais je crois que de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui effectivement exprime, je dirais, des formes de colère, des formes de révolte brute, qui dans l'immédiat, à cause de la désorganisation justement politique de ces quartiers, n'a pas encore trouvé, on pourrait dire, de forme d'expression matérielle, je dirais, ou n'a pas trouvé à se vocaliser de manière audible dans le débat public, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique dans ces quartiers. Je le répète, il y a des engagements très intéressants et très importants sur la question de violence policière, sur la question de suicide en prison, sur la question de la Palestine, etc. Bon, sauf qu'aujourd'hui, ces voix ne sont pas relayées, je dirais, parce qu'elles sont, elles restent coupées, on pourrait dire, des grandes formations traditionnelles de gauche ou du mouvement social en général. Et mais c'est ça que ça exprime.
On peut compléter un peu ce qu'avait dit Laurent Bonelli sur le fait que, au-delà des blagues qui font rire à mes collègues et qui font que ça va être compliqué de passer derrière.
Vas-y Marco. Vas-y.
Si c'est Bonelli qui les fait rire comme ça, ça m'inquiète vraiment.
Déjà qu'il parle trop vite. Mais
non, tu disais quoi Marco?
Je voulais raconter un peu ma petite expérience. T'étais au cours d'une formation à Paris avec des procureurs, magistrats, puis nous-mêmes éducateurs. Il y a une responsable des renseignements généraux qui était venue nous parler des émeutes de 2005, expliquant que si l'événement avait été organisé au niveau national, les autorités auraient été dépassées. Et expliquant aussi notre information, puisqu'on n'a pas eu... j'ai pas d'écho, moi, sur la fin, ou le pourquoi de la fin de ces émeutes.
Tu veux dire pourquoi ça s'est arrêté?
Oui, comment Et ouais. Par contre, elle en avait une, la responsable des renseignements généraux, la même, qui nous explique que ce sont les trafiquants de drogue qui ont arrêté ou demandé d'arrêter ces événements, puisqu'en fait, ils perdaient de l'argent, puisque les événements se passaient sur leur territoire et sur leur part de marché.
Ouais.
Donc l'intervention des trafiquants de drogue serait plus efficace que l'intervention de la police, le couvre-feu et tout ça?
En tout cas...
Selon cette personne.
Selon cette personne, bien sûr.
Ils sont forts, hein, c'est les généraux, ils en savent des choses quand même.
Moi, ça me rassure, en tout cas.
Parce qu'en même temps, il dit ça, et en même temps, il disait des choses... ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais je me souviens qu'il y avait une polémique sur est-ce que c'était pas des bandes armées qui s'organisaient. Ça, c'était la version Sarkozy, et les renseignements généraux disaient non, je crois que là, on a beau dire, monsieur... Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, monsieur Sarkozy, c'est une erreur, quoi, ça ne marche pas.
Ouais.
Et il y a autre chose qui a été dit dernièrement là, sur ces événements-là, c'est la revue Clarisse, donc une revue tenue par un copain de Laurent Bonelli, c'est Laurent Mucchielli, et qui a essayé un petit peu qui essaye en permanence de décortiquer, décrypter le langage sur le thème du sécuritaire, et précisément sur le bilan des événements, des émeutes, je sais pas quel terme employer, moi, de novembre 2005. On se souvient tous des propos de Nicolas Sarkozy qui disait, ça vient de garçons. On a entendu la polémique sur la polygamie venue d'Afrique noire, ça c'était Christine Boutin qui avait insisté là-dessus. Et puis il y avait cette histoire que c'était des jeunes multirécidivistes très très jeunes. A priori, dans la revue Clarisse, Mucchielli, il fait une étude. Alors les études sociologiques les plus classiques et en même temps les plus efficaces, c'est-à-dire ils prennent les dossiers, ils vont dans les tribunaux. Donc là c'est en l'occurrence au tribunal de Bobigny. Et ils regardent un petit peu... précisément qui étaient les jeunes qui étaient mis en cause dans ces histoires-là. On se rend compte en effet que c'est les garçons, ça par contre ça restait véritable. Ensuite que l'histoire de la polygamie c'est du pipeau, parce que c'est vraiment, je crois qu'il y a deux ou trois jeunes simplement sur l'ensemble qui viennent d'Afrique noire, en tout cas moins d'un quart en tout, avec l'histoire potentielle de polygamie, ce qui n'est même pas avéré.
Donc, ce qui peut, excusez-moi, enfin le lien polygamie et délinquance, enfin... C'est un peu compliqué.
Voilà, c'était déjà n'importe quoi, mais déjà le chiffre avancé par le ministre de l'Intérieur était faux sur cette question-là. Et puis on va aller jusqu'au bout parce que...
Il a invité un psychanalyste peut-être.
Ouais.
C'est vrai qu'il nous explique ça.
Ouais, c'est vrai, il doit y avoir un lien.
Quel est le fort? Un polygame.
Voir un psychanalyste polygame. Et la dernière chose sur laquelle incitait énormément M. Nicolas Sarkozy, c'était de dire que... Alors il a dit à l'Assemblée nationale, 75 à 80% des émeutiers étaient des délinquants bien connus. Et en fait, en regardant les chiffres, on se rend compte qu'a priori, il n'y avait déjà que 41% des cas qui étaient connus par la justice, donc ça divisé par deux le chiffre de Sarkozy. Et là-dedans, il y en avait plus d'un tiers qui étaient connus par l'assistance éducative, donc pas du tout pour des faits de délinquance. Et donc à la fin, on peut conclure qu'il y a donc quasiment, alors j'ai plus le chiffre, je le cherche au moment où je vous parle, mais c'est un tiers au global des jeunes qui étaient connus. Et donc on est très loin des 80% de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, je trouve que la démarche de Mukeli, elle est un peu proche de celle qu'on a entendue dans la bouche de Bonelli, c'est-à-dire comment, avec les faits, l'analyse des faits, on arrive à décrypter des croyances, des fantasmes, voilà, ou voir des stratégies politiques.
Le truc, c'est qu'il ne passe pas sur TF1, quoi.
Il passe pas sur TF1, c'est vrai. Ouais. Comment on peut faire ? Il passe sur Radio Clapas, quand même.
Oui, ouais. Ce qui est déjà pas mal.
Et à propos de Radio Clapas, Jean-Jacques, il me semble que c'est bientôt la fin de l'émission.
Oui, parce qu'à Radio Clapas, on a une heure universelle. Vous savez, on est en lien avec RFI pour les actualités, donc ça fait qu'on a une heure universelle. Et en effet, ça va bientôt être la fin de notre émission. Alors, je vais comment faire ?
T'as les bips dans tes oreilles ? Ça fait bip ?
Ça fait bip, bip. D'ailleurs, ça fait bip dans ma tête en ce moment, je crois.
Non, parce que juste avant de conclure, je voulais juste signaler qu'en fait, je n'ai toujours pas donc retrouvé l'adresse
Bravo.
Du site internet du comité de soutien de Celle-Neuve. Par contre, je viens de me rappeler de quelque chose, Manu. C'est qu'il y a quand même une réunion tous les jeudis à 6h30 à l'école Léo Mallet à Celle-Neuve. Donc tous ceux qui sont intéressés par cette problématique peuvent s'y rendre, peuvent soutenir. Il y a une pétition qui circule et donc vous pouvez venir, on vous donnera, y compris l'adresse du site internet. Excusez-moi, c'est Jean-Jacques qui me faisait...
Et surtout, vous entendez. Il n'y a pas plus le petit bip-bip, mais on entend quand même un petit peu la musique.
Jean-Jacques, ça veut dire quoi, cette musique ?
Aucune idée, je crois. Ah si, il faut enlever les casques qu'on a sur la tête et surtout demander à tous les gens autour de nous, et surtout à ceux qui nous écoutent, de mettre un canotier sur la tête.
Exactement. Et on entame tous maintenant, et vous pouvez faire ça chez vous aussi, entamer un petit, même dans votre voiture, un petit pas de samba. Voilà. Jean-Jacques, tu nous montres le pas, comme d'habitude.
Attention. Hop là, voilà, ça y est. Vous l'avez ? C'est à vous, hein.
Et si, comme on le croit, on commence d'abord à renoncer à l'impossible et ensuite à tout le reste, alors on vous l'affirme, l'impossible est en cours. On se retrouve tous les lundis pour parler donc de sécurité, d'insécurité et d'action sociale, même heure sur Radio Clapas 93.5. Et quoi qu'il arrive, restez vigilants. Et aujourd'hui, on laisse le mot de la fin à Laurent Bonelli.
Bourdieu disait que finalement la sociologie c'était une arme, au sens où c'était essayer de mettre des armes à la destination de ceux qui veulent lutter. Et je crois que bon, on a le temps de faire des études, on a le temps de faire du travail, et je crois que si on peut synthétiser ça et le donner genre aux éducateurs, aux profs, dans leur travail, pour leur donner des armes pour lutter, pour résister justement à cette espèce de vent mauvais sécuritaire qui nous envahit, je crois qu'on fait à peu près ce qu'on a à faire. Je crois que voilà, c'est aussi par ce genre de petites touches, je dirais, qu'on peut contribuer à faire en tout cas ce qui nous permet de nous regarder dans une glace ce matin.